de France Culture. Les Nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Résumons-nous. La semaine a été désastreuse. Résumons-nous, c'est là le titre d'un volume paru dans la collection Bouquin Robert Laffont, signé Alexandre Vialat. Vialat, le chroniqueur fraternel, Alexandre, qui glissait des alexandrins dans ses textes. Des chroniques qui ne se terminent jamais par ce « quoi elles ont commencé », des chroniques labyrinthes, des chroniques terriers. Un spectacle, en 2013, permettait à Antoine Perrault d'évoquer l'œuvre de Vialat.
Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était? C'est...
Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots.
De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu.
Avec la langue.
Oh, je sais plus.
Je pensais que vous disiez que nous parlions en japonais.
Avec la langue.
Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve.
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Laetitia Coya.
Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Linguam nostram, in qua nati sumus.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison.
Il n'y a pas seulement Philippe Meyer qui a le droit de parler d'Alexandre Vialat sur France Culture. Nous allons parler d'Alexandre Vialat 1901-1971. Cet homme qui, de 1952 à sa mort en 1971, a ciselé pour La Montagne, le quotidien de Clermont-Ferrand, des textes qu'on croit écrits de la veille quand on les lit. Et à les entendre sur scène, vous aurez même l'impression qu'ils datent du jour même. Ce sont les œuvres d'un pondeur d'exception qui possédait la science courue, mais rarement atteinte, du calibrage. Les entendre sur scène, c'est dans le spectacle que met en scène Charles Torgeman, ici au micro, qui s'appelle, ce spectacle, « Résumons-nous, la semaine a été désastreuse ». Ce spectacle a été joué au théâtre de la commune d'Aubervilliers avec Christine Murillo, Julie Pilot et Dominique Pinon, eux-mêmes bientôt remplacés par qui ?
Clotilde Bollet et Philippe Fretin.
Et ce spectacle repart, après cette période alberti-villarienne, je crois qu'on dit en octobre, repart par les routes de France et de Navarre, en l'occurrence le Grand-Duché du Luxembourg, dès ce mois-ci, puisque le 3 décembre, ce sera à Clamart, du 6 au 7 décembre à Clermont-Ferrand. Vous aurez ensuite Nancy, 17 et 20 décembre, et l'année prochaine, dès janvier, 7, Luxembourg, disais-je, et Amiens, du 4 au 7 février. Vous retrouverez tout cela sur le site de Tire ta langue. Au micro, disais-je, Charles Torgeman, le metteur en scène, et l'une des comédiennes, Christine Murillo, une abonnée de Tire ta langue, puisqu'on la reçoit à chaque fois qu'elle publie avec deux de ses confrères du théâtre un dictionnaire dit du baleinier. Mais là, il s'agit de parler de Vialat, et ces chroniques, vous les avez utilisées, Charles Torgeman, sans les adapter vous-même. J'ai l'impression que c'est, si j'ai bien compris, c'est Jacques Nichet, homme de théâtre également par excellence, qui s'est chargé, mais avec vous, sans vous, comment ça s'est fait ce travail ?
J'ai assez vite pensé à Jacques Nichet pour adapter ses chroniques de Vialat, parce que je connaissais assez peu d'adaptateurs ou de metteurs en scène susceptibles de lire 888 chroniques, non pas d'un seul trait, mais presque, et capable d'avoir un regard, de chercher dans le labyrinthe vialatien un point de vue que nous avons en fait en réalité contesté avec les actrices et l'acteur, puisque le premier choix qui a été fait au milieu de ces 88 chroniques avait été légèrement dépressif, c'est-à-dire qu'il y avait un choix de... On évoquait un Vialat luttant contre le siècle et battu par ce siècle, et nous avons, avec les comédiennes, avec Christine, avec Clotilde Mollet, qui a créé le rôle, et Dominique Pinon, on a voulu pimenter ce trajet un peu triste qui avait été la première esquisse lancée, par des choses un peu plus drôles concernant la langue française, concernant le regard qu'il a un peu désabusé sur le siècle, parce que même battu, Vialat reste vainqueur, en tout cas par l'humour et par un usage de la langue peu commun. Moi-même, je ne connaissais pas Alexandre Vialat, et j'avais quelques livres de poche dans ma bibliothèque, puisqu'il est le premier traducteur de Kafka en France, mais je n'avais jamais ouvert les chroniques, et sitôt qu'à la demande d'ailleurs insistante de Clotilde Mollet, j'ai ouvert les chroniques, moi j'en étais absolument ravi, je continue à lire ces chroniques, c'est comme une thérapie maintenant, je sais où aller, si je ne vais pas trop bien, je vais dans l'année 1962-1963 chercher quelque chose qui me réconforte, exactement comme je fais avec Marcel Proust. Donc les deux sont des grands médecins de la langue en tout cas.
Charles Tangeman, Alexandre Vialat, comment le dire, était un homme de droite qui fait rire les gens de gauche.
Oui, c'est vrai, moi qui suis ce qu'on appelle un homme de gauche, c'est-à-dire qui vote traditionnellement à gauche, je me suis demandé effectivement pourquoi j'allais dans cet univers-là, plutôt que vers d'autres univers. Mais alors, formidablement, je ne me suis absolument pas posé la question. Sitôt que j'ai été englouti par les chroniques, je ne me suis pas dit c'est un homme de droite ou un homme de gauche. Je me suis dit, voilà, un immense écrivain. Un écrivain qui est capable de nous faire rire avec des choses profondes, au fond, qui n'est jamais au-dessous de la ceinture, qui n'est jamais à fleur de l'écume, mais qui est tout le temps, enfin, qui sait naviguer entre l'écume et le fond de l'eau. Et alors qu'il soit de droite ou de gauche, alors franchement, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée pendant qu'on a travaillé sur les chroniques.
Christine Mériot, avant de vous demander votre avis sur la question et comment la lutte entre les comédiens et le metteur en scène a pu s'articuler, est-ce que vous pourriez nous mettre dans le bain de Vialat avec le début d'une chronique consacrée à Eva Perón, où on voit qu'au lieu d'être une espèce de ronchon point final, c'est un ronchon lumineux et conscientisé. Et quand je dis qu'il est de droite, on le sent parfois à propos du RSS, etc., dans votre spectacle. Eh bien, là, il est simplement Vialat.
Voilà. Et effectivement, bon, c'est une chronique qui est appelée Eva Perón, mais le bouc, je vais vous en dire, on n'en parle pas du tout. Et c'est même, j'avais envie de rebondir, sûrement j'aurai l'occasion, mais sur ce que vient de dire Charlie. Oui, Jacques avait fait un parcours de chronique tout à fait construit sur effectivement les choses tristes, mais ce qui caractérise Vialat, c'est justement que dans chaque chronique, il passe du coq à l'âne. Et peut-être que Jacques avait gardé des paragraphes assez importants. Et nous, ce qui nous a paru plus jouissif, c'est de remettre la chronique in extenso, puisqu'elle passait du coq à l'âne tellement souvent que c'est ça qui en faisait un motif de réflexion plus joyeux. Voilà. Ceci étant dit, voilà Eva Perón qui ne va pas parler d'Eva Perón, puisque ce sera coupé avant. Le ciel est gris. La conjoncture est molle, la civilisation s'affaisse, comme un soufflet. Autrefois, on vantait l'art d'un film, maintenant, on vante son prix de revient. Autrefois, on parlait du talent d'un poète, maintenant de la marque de son auto. Autrefois, on habitait des maisons, c'était des endroits faits pour l'homme, qui procuraient à chaque activité le paysage qui lui était naturel. Les oignons séchaient au grenier, le vin mûrissait à la cave, le saucisson pendait à la solive, la mauvaise marche du perron cassait la jambe aux visiteurs insupportables, les enfants trouvaient aisément quelques niches naturelles pour jouer à guignol, on savait où mettre ses souliers, sa pipe, son grand-père, son vélo. Maintenant, il n'y a plus de maisons, mais des taudis ou des chambres d'hôtel. Et ce placard nu, cette tombe, ce désert de la soif, bref, cette aventure saharienne qu'on a appelée HLM, où l'homme meurt de claustrophobie par un record du paradoxe au sein d'un vide illimité. J'ai vu un rat de 410 grammes y périr en 1h14 sur un sol en fibrociment. D'ennui, de dégoût, d'écœurement, de solitude métaphysique. Je l'ai vu maigrir progressivement, perdre ses joues, pencher la tête, fermer les yeux, raidir les pattes. Est-ce raisonnable ?
Quand on entend un tel texte, il nous fait rire aujourd'hui. Il ne faut pas contextualiser à outrance parce que ça tue la littérature. Mais Charles Turgeman, n'oublions pas que tout cela date d'une époque où le Parti communiste français imprimait la cadence, si j'ose dire, donnait le « là », où il y avait un certain misérabilisme héroïque en même temps, qui se justifiait parce que la mouise était vraiment là, et que cette façon de décrire un rat qui meurt, peut-être aussi une pierre dans le jardin du Parti communiste qui décrivait une classe ouvrière sous le joug, des populations colonisées, abattues, non pas encore au napalm parce que ce n'est pas la guerre de Vietnam, etc. Mais, et aujourd'hui, on le vit tout à fait autrement, mais on ne peut pas tout à fait le dissocier du terreau originel, non, Charles Turgeman ?
Quand Vialat écrit, quelques années avant qu'il ne meure, moi-même, j'ai adhéré au Parti communiste français, parce que c'était un peu, comme Vialat dirait, c'était le prospectus général. C'était la pensée, aujourd'hui on dirait la pensée dominante, la pensée dominante. Et je trouve que, à l'époque, pris moi-même dans cette espèce d'acier inoxydable qui était la pensée de notre Parti communiste, je ne pouvais pas émettre cette espèce de doute permanent qui est à l'œuvre chez Vialat. J'aurais dû lire Vialat plus tôt, ça m'aurait évité quelques déconvenues sur le terrain de la pensée en tout cas. Et ce que je trouve assez incroyable chez Vialat, c'est que en même temps, lorsqu'il parle de cette pensée dominante, il ne le fait jamais avec dérision. Il ne met jamais en boîte de façon humoristique ou comique cette pensée dominante. Bien au contraire, il a toujours une affection fraternelle. Il y a quelque chose de très fraternel chez Vialat à l'égard des pensées qui l'environnent, à l'égard des êtres humains qui l'environnent. C'est un homme de son siècle et en même temps, pourquoi est-ce que c'est un homme de notre siècle ? Je pense que c'est sa capacité à attaquer l'acier, à attaquer cette pensée inoxydable, parce qu'il la ronge en mettant sans arrêt du doute à l'intérieur du prospectus général. Il quitte le prospectus général. Alors c'est probablement son regard biaisé, son humour exceptionnel, et cette façon d'être français, cette façon de revendiquer la langue française comme un acte de dignité. Et lorsque Vialat traite de la langue française, c'est pour dire à celui qui la maltraite que maltraiter sa langue, c'est se maltraiter soi-même. Et alors ça, c'est une pensée qui était absolument pas proche du tout de la pensée communiste, puisque la pensée communiste, par définition même, c'était croire en un bloc d'acier inoxydable. Donc c'était pas possible de ronger l'acier. Voilà, lui, il est capable de le faire grâce à une langue, moi, qui me fait beaucoup penser, je sais pas pourquoi, à Marcel Proust.
Ah oui, mais le Parti communiste, songeons à Georges Cogniot qui avait fait « Il n'était pas l'Espagne, il était son bourreau », titre de l'Humanité au lendemain de la mort de Franco en 75, c'était un alexandrin. Et le père Vialat, il avait l'art comme ça de faire surgir dans le spectacle, hop, un alexandrin.
Ah oui, partout.
Le lapin n'est pas fait pour les vastes voyages.
Oui, le japonais n'est pas une langue sans piège. Oui, ça c'est un plaisir même de chaque soir, pendant que j'écoute mes camarades, de repérer encore et encore les mystérieux alexandrins qu'il a balancés un peu partout. Ça c'est absolument merveilleux.
Et cette intelligence en définitive supérieure, puisqu'elle se fait oublier et passe pour de l'empathie, alors que normalement une intelligence peut-être un peu brutale et saillante, et peut-être sur son promontoire, cette intelligence a tout prévu de notre époque épuisée, qui ne sait plus par quel bout s'en sortir. On a vraiment l'impression que Vialat, mort en 71, qui ne quittait guère les parages de la prison de la santé où il habitait, sauf pour attendre le bus 21, il nous fait une espèce de petit coucou ironico-littéraire, là où nous sommes. Vous l'avez lu comme cela également ?
Alors, je l'ai lu comme ça et je l'ai appris avec horreur. C'est-à-dire que je crois que je n'ai jamais appris un texte aussi difficile. Je n'ai jamais eu cette tension tous les soirs. Je Maintenant, je les maîtrise un peu mieux, mais la manière d'écrire est vraiment faite pour être lue. C'est la première fois que je suis confrontée à ça, à ce point-là. Parce qu'il y a des textes qui sont horribles à apprendre. Pierre Note, c'est par les répétitions. Novarina, c'est, Dominique Pinon serait là pour le dire. C'est aussi par l'étrangeté des mots et puis par les listes incroyables. Mais je ne sais pas pourquoi, Vialat choisit toujours le mot à côté de celui qu'on aurait pu imaginer. Il fait en parallèle des périphrases, des adjectifs, des participes présents. Il change de sujet au milieu d'une phrase. Dans Eva Perón, j'ai une phrase où je commence, le sujet c'est la radio, et ça finit c'est Eva Perón, et on sait pas, c'est au milieu, c'est comme ça. C'est vraiment diabolique, mais c'est absolument passionnant.
Charles Tangeman, on a l'impression effectivement que il joue avec les clichés pour les pulvériser, et du coup, il les pulvérise avec un mot extrêmement précis qui vient se nicher à la place de ces mots un peu mous que nous avons tous en tête. Peut-être est-ce cela aussi cette difficulté à l'apprendre par cœur, mais en tout cas, à chaque fois, ça fait mouche.
Le verbe qui lui convient bien, moi je crois que c'est, ou le substantif qui lui convient bien, c'est celui de rongeur. Et pour le coup, on peut repenser aux marxistes et à Marx lui-même, qui considérait que le révolutionnaire, c'est pas la figure, c'était celle d'une taupe qui fabriquait sous le monde dans lequel nous vivons des galeries, et à force de fabriquer des galeries en dessous et de ronger, à un moment, un monde nouveau apparaîtra, celui qu'on fabrique en dessous, il va naître de lui-même à force de creusements successifs. Et je trouve que Vialat fait ça. C'est-à-dire qu'il est, il attaque jamais de front. Il attaque jamais la société de front, il ne parle jamais de politique, il n'est pas partisan, sauf à un moment, mais il ne parle pas de l'Algérie, mais à un moment, il a été plutôt pour l'Algérie française, mais jamais dans ses chroniques, il y a de discours frontal qui vient affronter un autre discours frontal. Il adopte la stratégie du rongeur, du petit rat, d'ailleurs il le dit lui-même, l'homme descend du tarsier, qui est un petit rat. Il dit, c'est vrai, ça ne fera pas plaisir à l'homme de savoir qu'il descend du rat, mais il faut en convenir, il descend du rat. Et je trouve qu'il a un peu cette stratégie de l'écrivain qui, à coup effectivement d'adjectifs, de périphrases, va saper les piliers de la pensée dominante, et quelque chose d'autre apparaît. On ne sait pas très bien quoi, on ne sait pas très bien ce qui apparaît, mais il donne de l'oxygène à un monde qui étouffe. Et il sait que ce monde étouffe, un peu comme Jacques Tati parfois peut le faire avec légèreté et drôlerie. Enfin, il a cette façon de repeindre le monde par en dessous, mais on ne voit pas comment il le fait, un peu comme avec des pinceaux ou des pincettes. Et il arrive à faire naître une chose nouvelle. On se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est vrai que vivre dans un HLM, c'est pas terrible. C'est vrai que c'est mieux que les oignons sèches. C'est vrai que c'est mieux de s'occuper de son grand-père ou de sa grand-mère plutôt que de la laisser à l'hôpital. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est aussi un moraliste. Il me fait penser aussi à Saint-Simon. C'est-à-dire qu'il y a, c'est quelqu'un qui observe et qui, par des petites touches successives, il ripolline un peu tout ça sans jamais finir la peinture. C'est jamais totalement terminé. Il nous dit un peu, à vous de terminer un peu. Moi, je vous donne pas, j'ai pas d'avis sur ce que je suis en train de dire. Et cette chose merveilleuse qu'il pratique, qui est l'art du labyrinthe, quand il commence une chronique, et puis paf, il va ailleurs, il s'en va ailleurs, et il revient là, et il repart. Et ça, c'est prodigieux, parce qu'on est, on est chahuté par les images, on est chahuté par sa pensée, par des mots, quand Hitler est mort, par exemple, on n'en a pas bien profité. C'est formidable, quoi. Sur cette façon d'appréhender la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même assez extraordinaire.
Et parmi ces galeries du labyrinthe menant au terrier où on ne le trouvera jamais, Alexandre Vialat, il y a, et le spectacle joue là-dessus, sur l'aspect itératif, il y a quelque chose dont j'aimerais que vous nous parliez, Christine Murillo, qui est lâche. On dit parfois une hache quand on est très cuistre.
Oui, on m'a fait la remarque que Vialat, il dit un hache, il dit lâche. Essayez de mettre lâche au bon endroit et vous verrez. Il dit lâche alors que les puristes pourraient dire une hache.
Et il s'agit l'hache de Nathalie.
L'hache de Nathalie, oui, c'était pas une hache, l'hache de Jeanne Hachette. Alors là, je suis dans un cas de figure bancal, c'est-à-dire que je suis à la fois dans la mémoire et j'ai la possibilité de lire le texte. Et vous voyez, tout à l'heure, quand je disais le texte sur les HLM, j'ai eu un trou. C'est ça, Vialat. C'est-à-dire que il nous embarque sur une idée, et on est tellement plein de l'image, de l'idée que, et puis surtout l'envie de le faire découvrir en face aux gens et même à vous, enfin vos auditeurs, et bien l'enthousiasme, hop, on repart, tchac, et on est obligé de redémarrer avec un trou qui peut durer un millième de seconde, c'est ce que je me souhaite, mais c'est constellé de ces petits trous-là. Alors oui, il est défenseur de Nathalie sans H. Il dit que Nathalie vient de Natalis et n'a pas d'H. Donc, c'est une obsession qui revient plusieurs fois dans ses chroniques. Et évidemment, le principe de répétition est très drôle. On n'est pas passé à côté pour le plaisir du spectacle.
Et vous pourriez nous réciter, là, je n'ai pas de texte, Christine Rio, à vous.
Et d'abord, disons bien les choses, il ne faut pas d'H à Nathalie. On me dira qu'il en faut un à cheval et à bibliothèque, c'est possible, je n'en sais rien, je regarderai dans le dictionnaire, mais de toute façon, il n'en faut pas à Nathalie. Il en faut à rhinopharynx, à nématelmint, à phonographe, à Athalie, il n'en faut pas à Nathalie. Nathalie vient de Natalis, qui n'a pas d'H. Au lieu que, par exemple, cheval, qui veut un H, vient d'Écus, qui n'en a pas non plus, c'est vrai, mais qui pourrait bien en avoir, l'orthographe est si arbitraire. D'ailleurs, cheval ne vient pas d'Écus. On m'a fait mal choisir mon exemple, mais j'aurais raison avec un exemple bien pris. Un bon exemple est affaire de chance.
On parlait de cheval, ça nous mène à un des passages les plus vertigineux, me semble-t-il, de votre spectacle. Résumons-nous, la semaine a été désastreuse, Charles Turgeman. C'est à propos d'une sorte de judiciarisation galopante, cette quête d'équité, parfois de pacotille, et c'est un article, une chronique lunaire consacrée à des comparses d'un dessin, non pas de cheval, mais de chaval. Et on y lit ceci. Il faut bâtir une jurisprudence qui empêche de changer de profession les personnages créés par l'art. Il faut les protéger de leur père. Il faut créer rapidement un droit des personnages à disposer d'eux-mêmes. Et là, alors qu'il est mort en 71, on a une espèce de moquerie par anticipation de certains dérapage, pour ne pas dire ravage, d'une certaine idéologie que je n'aime pas appeler droit de l'homisme parce que ça vous place automatiquement à la droite de Vialatte. Mais quelle préscience !
Alors, cette chronique, c'est, je crois, un chef-d'œuvre. La chronique « Les pharmaciens fuyant l'orage », c'est un véritable chef-d'œuvre. Parce que je ne pense pas que Vialatte a écrit cette chronique en sachant comment il allait la terminer. Je pense qu'il est parti sur le dessin, ce qui d'ailleurs, avec Jacques Nichet, nous avait donné une idée qu'on n'a pas gardée, mais qui était pourquoi ne pas prendre toutes les chroniques qui ont à voir avec Chaval, puisque Vialatte est un très grand admirateur de Chaval. Il y a chez Chaval, dans la façon de mettre l'humain dans le dessin chez Chaval, il y a quelque chose de très voisin de Vialatte, qui est la solitude, quelque chose de pas loin du misanthrope. Quelqu'un qui, mais je suis persuadé que Vialatte aimait l'humanité et il aimait les humains qui composent l'humanité. Il l'aimait pas de façon théorique, effectivement. Mais il y a dans cette chronique une démonstration sur les personnages de Chaval qui devraient avoir le droit de disposer d'eux-mêmes. Parce qu'on pense, moi, cette formule me fait immédiatement penser au général de Gaulle. Les peuples doivent disposer eux-mêmes de leur destin. Et le fait d'avoir pris, moi, je vois le général de Gaulle derrière cette chronique.
Ah oui, ça serait les échos du discours sur l'autodétermination de 59, par exemple.
Je trouve qu'il y a ça chez Vialatte, qu'il a une façon de traiter de problèmes qui sont gigantesques sur la planète, mais gigantesques. Et en même temps, il a une capacité de passer de cette espèce d'immensité de la pensée à des détails de la vie, comme les oignons qui sèchent à la cave, ou la marche du perron qui est fêlée, ou tellement de détails, le fromage, le bon vin, que l'humanité est totalement renversée. Enfin, toutes les valeurs sont, il renverse toutes les valeurs avec cette formule des personnages qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Et puis il y a moi je suis fasciné chaque fois que j'écoute cette chronique, aussi bien dite par Clotilde Mollet que par Julie Pilot, c'est qu'elles ont toutes les deux cette espèce d'art de la naïveté qui probablement était très proche de Vialat. Alors là, on pourrait dire naïveté au sens étymologique du terme, c'est-à-dire nativité qui naît à...
Comme on a l'impression Nathalie.
Comme Nathalie.
Nativité ne prend pas d'âge.
Voilà, nativité ne prend pas d'âge.
Vous voyez.
En fait, il est comme en position d'enfance, systématiquement, à l'égard des concepts les plus énormes, les plus importants, puisqu'il en vient même à comparer le dessin de Chaval au sculpteur qui sculpte Moïse.
J'ai oublié. Michel-Ange.
Voilà, Michel-Ange. Et c'est assez renversant, quoi. Mmh. Et c'est vrai que sa pensée est vertigineuse, quoi. On est au bord, on est tout à coup, on est où aura des pâquerettes, ou tout à coup au sommet du Puy de Dôme, ou du Mont Blanc, ou encore plus haut. Voilà, il a l'art d'aimer les montagnes et de mettre tout en l'humain, ou au sommet de la montagne, ou tout en bas de la montagne. Ça relativise quand même notre importance sur cette planète.
Et cette façon, cette focale absolument incroyable, passer de l'essentiel à ce qui nous apparaît comme l'accessoire, mais qui est important, et en particulier la langue. Je voudrais, Christine Muriot, que vous nous parliez d'un élément très important, un détail microscopique, mais à la fois cosmique, si j'ose dire, qu'on a entendu à la radio, d'ailleurs. La dernière fois qu'on a entendu prononcer « Féric » à la radio, c'était par Paul Fort, en 1952, à l'occasion de ses 80 ans, des entretiens avec Michel Manol, qu'on ferait bien un jour de rediffuser. Ou Paul Fort, qui connaissait la langue française comme personne, ancien condisciple de Gide, on sentait qu'au lycée Louis-Grand, on leur avait appris la bonne prononciation. Paul Fort prononce « Féric », alors que nous tous, nous avons tendance à dire « Féric ». Eh bien, Vialat, là-dessus, avait des opinions très précises.
Oui, mais basé sur la vérité, qui paraît-il n'est plus vrai depuis, j'ai regardé depuis, il paraît que, vous allez comprendre, l'acception maintenant depuis 90, paraît-il, tout a changé. Mais bon, d'abord, on n'écrit pas « Féric », mais « Fé-E-ric ». Sans accent sur le second E. Et on prononce féric, comme téléphérique. En prosodie, le mot ferry a deux pieds, comme ma grand-mère, et non trois comme escabeau. Si le second E devait être prononcé, on écrirait féhéric. De même qu'on écrit téhéran. Voilà la chose. Pourquoi j'en parle? Parce que les revues les plus sophistiquées se mettent à étaler la faute en grosses lettres, en capital dido. Où allons-nous?
Et donc là, nous avons tout à coup quelque chose. Un escabeau, ça a combien de pieds? Mais non, c'est escabeau.
Oui, et alors vous faites bien de poser la question, car tout d'un coup, en coulisses, avant de rentrer, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est encore plus fin que ce que je ne crois. C'est escabeau, non seulement ça a trois pieds, puisque c'est escabeau, mais ça a trois pieds comme échelle, comme...
Comme un trépied.
Comme un trépied. Alors... Tout ça est très décevant quand on vérifie dans le dictionnaire. On s'aperçoit qu'un escabeau que j'ai connu dans ma jeunesse, qui avait trois pieds, n'est pas décrit comme un escabeau avec trois pieds. Féerique, qu'on croit que maintenant, c'est merveilleux. Eh bien non, maintenant, féerie, paraît-il, est depuis accepté avec un accent depuis 1990. Bon, voilà, on a des petites déceptions parce que, voilà, les renouvellements font que tout n'est pas vrai.
Il y a les réformes, le mot ne vient
réformes,
pas.
Voilà.
Mais par exemple, réforme.
Là où, oui, réforme. Par contre, il y a des erreurs. J'ai voulu à un moment, je voulais proposer à Charles un texte sur les millions, les trillions, les billions, les milliards. Et là, il faudrait qu'on m'explique, mais il se trompe. À un moment, il dit que je voudrais pas rentrer dans le détail, mais nous on fait un million, un milliard, un billion. Et lui dit que milliard et billion, c'est la même chose pour nous. C'est faux.
Ah oui, il confond peut-être. Donc,
il dit que c'est les Allemands qui font le contraire. Enfin. Voilà.
Mais il ne se trompe pas, Christine Muriot, sur une autre règle sur laquelle il revient dans une chronique qui ne figure pas dans le spectacle, à savoir que « après que gouverne l'indicatif ».
Ah, toujours, absolument. Et c'est surtout, il a toute une tartine sur le mauvais emploi du subjonctif, ou bien alors de préférer de dire « une fois que » ou voilà, mais de pas mettre « après que » avec un subjonctif, ça l'horrifie. Mais il faudrait pas qu'on croie que c'est juste un défendeur de la langue, puisqu'il est défendeur de la langue sans en parler. Je veux dire, bien sûr qu'il a des chroniques qui parlent précisément de l'orthographe, mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il parle de la langue française sans en parler, puisqu'il la respire lui-même par sa plume, quoi.
C'était Tire ta langue avec Charles Torgeman et Christine Murillo à propos du spectacle Alexandre Vialatte qui s'apprête à tourner de Clamart à Nancy en passant par Clermont-Ferrand ce mois de décembre. Résumons-nous, la semaine a été désastreuse. Prise de son Jean-Richard Dufour, réalisation Laetitia Coya.
C'était Tire ta langue par Antoine Perrault, Vialatte sur un plateau, réalisation Laetitia Coya. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er décembre 2013. Rappelons que dans la collection Bouquins chez Robert Laffont vient de paraître Résumons-nous d'Alexandre Vialatte, volume contenant Ballades de Königsberg, Almanach des quatre saisons et Bel amour du foyer.